La vie au-delà de la vie. Yann, accompagné de ses copines, se reposait près d'un magnifique lac où de magnifiques fleurs de lotus flottaient à la surface. Soudain, Kadjour s'approcha de lui avec une expression sombre.
« J'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Le dernier jugement t'attend. »
Yann a eu momentanément peur en imaginant des chaudrons de goudron et des poils chaudes que les démons lui feraient lécher. Mais juste après, il s'est rendu compte que Kadjour plaisantait, mais que le jugement l'attendait vraiment.
Oui, tôt ou tard, tout le monde traverse ce majestueux mystère. Seuls les pécheurs les plus affreux vont immédiatement être jugés, et c'est directement infernal pour eux. Et presque immédiatement après le jugement, ils se réincarnent ou vivent dans les royaumes inférieurs du plan subtil, proche de la Terre. Ce jugement n'est pas une punition, mais une voie de renaissance spirituelle, car Dieu ne veut punir personne. Il avertit l'homme, lui fait découvrir la vérité et lui enseigne la bonne vision de la vie. Et plus vite l'homme va tout comprendre, plus tôt il va cesser de souffrir et vivra dans la grâce de Dieu.
Les anges ont volé jusqu'à Yann et l'ont porté dans un majestueux temple blanc rempli de lumière et présence divine. Une fois entré, Yann s'est divisé en son corps habituel et en partie spirituelle la plus subtile de son âme qui semblait dormir en lui jusqu'à ce moment et apparaissait trop rarement. Maintenant, il se voyait de l'extérieur de cette partie sublime de son âme. Toute sa vie a commencé à défiler devant ses yeux, mais il la voyait d'une manière extraordinaire. Il ressentait simultanément ce que tous les participants ressentaient durant tout événement. Leurs pensées, leurs sentiments, leurs expériences, leurs sensations corporelles et leur point de vue sur la situation. Il a vu à quel point ses parents éprouvaient de la peur et s'inquiétaient pour lui. Comment, dans leur inquiétude ignorante, ils essayaient de faire ce qu'ils croyaient être le meilleur pour leur enfant. Ils ressentaient une profonde sympathie pour eux et une honte pour ses comportements grossiers envers eux et pour sa négligence envers leur amour et leurs soins. D'une part, il a vu comment il défendait sa liberté, à travers sa grossièreté et son rejet d'eux, ce qu'il considérait comme étant juste pour lui-même et son individualité. Mais d'un autre côté, il ressentait de la compassion pour eux et comprenait qu'avec chacune de leurs actions, il lui souhaitait du bien, même lorsque ce bien était désagréable et empiétait sur son indépendance. Il a vu comment il le forçait à aller à l'école, à faire les devoirs, comment il résistait constamment à toutes leurs tentatives de l'éduquer, et comment sa grossièreté et ses constantes accusations concernant sa liberté et ses intérêts étaient douloureuses et désagréables. Il ressentait leurs douleurs et leurs inquiétudes par rapport à son destin, leur souffrance à cause de ses bêtises et du fait que les professeurs les réprimandaient pour ses bêtises lors de la réunion des parents. Il se voyait comme un élève à l'école alors que les enseignants, dans leur ignorance désintéressée, essayaient sincèrement de le rendre meilleur et de lui transmettre ce qu'ils considéraient comme une connaissance. Il a réalisé à quel point c'était difficile pour eux de faire face à sa résistance constante et à sa mauvaise conduite. Le voici après avoir insulté le professeur d'algèbre, quittant la classe avec audace, faisant tomber les livres de son bureau et claquant la porte. Une autre fois, lui et ses amis versent de la colle sur une chaise, et l'enseignante s'y colle, se lève brusquement, perd l'équilibre et tombe sur le côté avec la chaise. Il ressent sa douleur et son expérience de cette moquerie stupide. Il est mal à l'aise et a honte de cet acte. Ici encore, il fixe un seau d'urine au-dessus de la porte et lorsque l'enseignant entre, il est trempé par son contenu. Il ressent l'embarras du professeur, sa colère impuissante et son agacement envers les élèves. Cela fait surgir un sentiment de culpabilité et de regret par rapport à cet acte. Ensuite, lui et ses amis se moquent et frappent un faible étudiant nommé Goga, en se moquant de lui. Il tire douloureusement son nez et lui donne un coup de pied par derrière et lui-même ressent la douleur, la peur de Goga et son état réprimé. Un sentiment de chagrin et de compassion surgit en lui à cause de cet acte. Ici, il est lui-même battu par des ennemis de la classe d'à côté devant toute l'école. Il le pousse dans une flaque d'eau sale, il se lève tout mouillé et ses agresseurs se moquent de lui. Il ressent leur état d'autosatisfaction moqueur. Et il devient triste parce qu'ils détruisent leurs âmes comme ça, en cultivant des qualités négatives à l'intérieur d'eux. Plus tard, envahi par une rage impuissante, il s'imagine en train de battre, torturer et détruire ses ennemis. Bien que ce ne soit que son imagination, il ressent vraiment leur douleur et leur tourment. Cependant, sous une forme plus faible qu'elle ne le serait en réalité. Il avait des remords d'avoir laissé la méchanceté et l'esprit de la vengeance prendre le dessus sur lui, et s'était permis d'imaginer toutes ces scènes cruelles. Ici, il est devenu ami avec Ina. Il voulait juste du sexe, alors qu'elle cherchait l'amour de sa vie. Il avait honte de l'avoir simplement utilisée sexuellement, et lui, à part la possessivité et la jalousie sans fondement, n'avait rien à lui proposer. Il n'y avait pas de véritable amour. Il sentait son implication émotionnelle avec lui, ses sentiments, ses pensées constantes à son égard et son soin, et en même temps sa propre froideur, son indifférence envers elle. Il se souvenait de ses reproches constants et ses paroles vexantes qu'elle avait profondément ressenties et dont elle avait souffert, et qu'elle n'avait pas reçu cet amour et cette tendresse qu'elle voulait de sa part. Comment avait-il pu la tromper avec une femme dans les toilettes lors d'une soirée arrosée, et quand elle avait découvert cela et que c'était devenu difficile pour elle, elle s'était mise à pleurer. Il lui avait craché dessus et était parti sans même essayer de la consoler. Il a vécu toutes ses pensées, toutes ses souffrances, a vu le monde à travers ses yeux et a été horrifié de ne pas connaître et de ne pas comprendre la personne qui était à côté de lui. À l'époque, il ne pouvait pas comprendre comment elle tolérait ses bêtises, son indifférence et sa grossièreté. Et maintenant, il sentait son attachement envers lui, qu'il était pour elle la personne la plus proche et la plus aimée. Il s'est senti très mal de l'avoir traité si mal, sans comprendre ni répondre à ses sentiments. Comment elle avait supporté toutes ces bêtises et ces insultes ? Il ressentait une profonde pitié pour elle, qu'elle s'était impliquée avec une personne aussi stupide et insensible que lui. Il ne pouvait même pas comprendre comment elle pouvait l'aimer et comment elle pouvait tolérer tout ce qu'il lui faisait. Il avait vu qu'elle avait un fort besoin d'aimer quelqu'un, d'être avec un homme et d'avoir un partenaire. C'était la première fois qu'il se voyait et voyait le monde à travers les yeux d'une femme et ça l'étonnait de voir à quel point sa perception était différente de la sienne. Pour lui, elle n'était qu'une des nombreuses personnes avec qui il ne faisait que satisfaire son désir. Et il n'était avec elle que parce qu'elle s'imposait à lui et parce que cela lui convenait. Il cherchait à être comme tout le monde, dit-on. Tout le monde a des filles, et lui aussi. Mais pour elle, il était la personne la plus proche et la plus chère à laquelle elle pensait constamment, et même aux choses dont il n'avait jamais prêté attention. À quoi il ressemblait, ce qu'il disait, comment il respirait, comment son cœur battait quand ils dormaient l'un à côté de l'autre. Il ne voyait en elle qu'une jolie fille, qui acceptait toujours de coucher avec lui et qui courait après lui comme une chienne. Il était complètement indifférent à ses émotions, ses pensées, elle et son monde intérieur. Il ne vivait que dans son prisme de perception. Et à la fin, il lui avait causé tellement de douleur avec son suicide qu'elle avait senti que sa vie s'était terminée. Il ne savait même pas et ne pensait pas à quel point elle était sensible par rapport à leur relation et sa mort. Il est devenu très triste à cause de son insensibilité, de son mépris pour la personne qu'il aimait tant et qui était si attachée à lui. Il se sentait complètement indigne et ne méritait pas un tel amour. Il n'était digne que de jugement et de mépris de sa part et de la part de tous les autres. Il était étouffé par des larmes de remords par rapport à son attitude impitoyable et grossière envers tous, à son égoïsme, par rapport au fait de ne penser qu'à lui-même, au fait d'avoir négligé les sentiments et les désirs des autres. Il a vu de l'extérieur son attitude envers ses amis et ses connaissances. son arrogance constante et sa comparaison douloureuse de qui est le plus cool, qui est le plus riche et qui a une meilleure apparence. Sa jalousie envers ceux qui, selon les normes d'une société malade, paraissent meilleurs, plus intelligents, plus riches, ceux qui ont plus de succès, des filles mignonnes et des voitures plus luxueuses. Il a vu la nature fabriquée de ces comparaisons, leur stupidité, la façon dont elles s'imposent à travers les films, les conversations entre eux, le désir constant de supériorité sur les autres, le désir stupide d'avoir tous les atouts du succès imposés par la publicité, les émissions télévisées et la communication avec eux qui sont préoccupés par le prestige et ayant le même sang-froid que lui. Il visait constamment à ressembler aux héros de cinéma les plus stylés et aux personnages de son entourage. Il trouvait à la fois amusant et honteux de se livrer à de tels jeux insensés de sang-froid, d'envie et de comparaison, tout en se considérant comme spécial, le plus intelligent et libre des conventions de la société, puisqu'il était entièrement composé de ses idées et ressemblait à tous les autres garçons de son entourage. Il se sentait complètement imbécile, un perroquet répétant les mots des autres comme un singe imitant tout ce qu'il voyait. Il sentait qu'il ne pouvait plus être aussi idiot, qu'il était dégoûté par lui-même. Mais en même temps, il ne savait pas comment être différent et comment changer. Il ne voulait plus vivre comme ça, mais il ne savait pas comment tout changer d'un coup, en ayant peur et honte de son existence. Après l'épreuve effrayante, Yann s'est adressé à l'ange.
J'ai vu que le péché n'est pas seulement un acte humain, mais un processus négatif destructeur qui existe dans notre psychisme et notre âme, qui conduit à de mauvaises actions, mais se manifeste beaucoup plus souvent par de mauvaises pensées et des émotions douloureuses. Cela fonctionne comme une maladie dans un corps physique. Presque toutes les maladies chroniques du corps sont le résultat de processus destructeurs de l'âme. J'ai vu en moi l'avidité, la jalousie, la vengeance, l'offense, la lâcheté, le jugement des autres et les qualités initialement agréables comme l'égoïsme et la complaisance. Mais ensuite elles se sont transformées en souffrance dans l'âme. Si quelqu'un voit que les autres sont plus cool, qu'il leur manque quelque chose, ou que les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait, j'ai vu qu'à cause de ces processus négatifs, je ne pouvais pas être heureux, rester dans la grâce et l'amour qui m'ont été donnés par Dieu. Que devrais-je faire pour arrêter ces réclamations douloureuses du psychisme et retrouver la joie, l'inspiration et l'état sublime qui caractérise une âme saine.
Avant tout, vous devez voir tout le spectre des états négatifs en vous et admettre qu'ils sont mauvais, car ils existent tant qu'une personne croit que les avoir c'est normal et qu'elle ne peut pas s'en passer. Quand elle s'accroche à ses états, les justifie de toutes les manières, les considérant même utiles par rapport aux mauvais phénomènes de la vie de son point de vue. Lorsqu'elle reconnaît cela et veut se séparer de cette saleté, elle doit voir sur quel mensonge se basent ces choses qui existent en elle. Peut-être cette personne croit-elle qu'elle a le droit d'être mauvaise si les autres ne font pas ce qu'elle veut, que quelqu'un lui doit quelque chose, que chacun est obligé de la traiter d'une certaine manière, ou qu'elle s'exalte, se loue, s'efforce en raison de cela, en essayant de stimuler son centre de plaisir, puis elle se fâche que personne ne la reconnaisse, ne la considère pas si géniale que ça. Ou elle commence à imaginer ou à se souvenir de diverses situations négatives et commence à avoir peur qu'elles apparaissent, à se décourager ou à s'énerver contre tout le monde. La méfiance et la colère surgissent en elle contre ceux qui sont censés revendiquer sa place ou son statut sans se rendre compte qu'ils lui ont été temporairement donnés par Dieu et peuvent également être retirés par lui. Lorsque vous verrez tous ces mensonges et que vous les exposerez, refusant d'y succomber, les remplaçant par des pensées positives, ainsi vous vous débarrasserez de vos péchés et vous serez dans un état de félicité infinie, initialement donné par Dieu à votre âme. Après le terrible jugement, une compréhension accordée par Dieu est soudainement tombée sur Yann. Dieu est infini en tout, et avec le paradis, il a créé des mondes aussi durs à vivre que notre terre, car il ne pouvait pas en créer un sans créer son opposé. Il ne pouvait pas créer le paradis sans créer l'enfer, car il est la plénitude. Pourtant, l'enfer et le paradis, le bien et le mal, l'ignorance et l'omniscience, il les utilise pour que les âmes acquièrent des expériences temporaires de toutes ces diverses émotions et atteignent une compréhension complète de Dieu et de sa création infinie et deviennent comme lui. Ce n'est ni punition ni récompense, mais une connaissance illimitée, car Dieu ne transmet pas la connaissance à travers les livres, mais à travers les expériences de la vie. Cependant, ayant eu une expérience avec le mal, l'ignorance et la souffrance, nous n'y reviendrons jamais, car il n'y a aucun sens à répéter sans fin la même chose. C'est comme une randonnée dans les montagnes, où nous voyons des paysages incroyables. Mais en même temps, ce voyage n'est pas sans difficultés. Pourtant, ces difficultés sont temporaires. Et après les avoir surmontées, nous ne reviendrons jamais aux épreuves et leçons douloureuses.
Souhaitez-vous en savoir plus ? Regardez le chef-d'œuvre animé qui révèle les mystères d'humanité. Découvrez plus de connaissances sacrées dans les livres. Vous pouvez rencontrer les personnages principaux des livres lors de nos séminaires. Trouvez votre amulette de puissance. Participez à un rituel individuel. Ouvrez la chaîne gratuite avec des pratiques spirituelles quotidiennes pour vous-même. Vous trouverez tout cela sur notre site web www.amazon1.org. Partagez ce livre et répandez la grande connaissance. La vie des gens changera pour le mieux, ainsi vous accumulerez du bon karma et serez en mesure d'aider tous vos proches.